Chapitre 7e. Chagrin d'Eudoxia. Elle était seule dans sa chambre, assise sur un lit de repos peu élevé au-dessus du parquet, le bras sur le genou, le front dans la main. Elle regardait fixement à terre. Un léger mouvement de la pointe des pieds trahissait de temps en temps un peu d'impatience. Mais elle restait plongée dans ses pensées où toute sa vie semblait s'être concentrée. Sa beauté merveilleuse était maintenant épanouie dans toute sa fleur. Tout brillait en elle, ses yeux bleus, les abondantes boucles de ses cheveux blonds, son sourire, les fraîches couleurs de la jeunesse, sa taille svelte et élégante. Les poètes l'appelaient un rayon de soleil incarné. Sa beauté n'avait pas seulement la régularité parfaite d'une statue de marbre, elle avait de l'expression, de la vie, quelque chose de sympathique qui attirait, quelque chose de noble qui commandait le respect. En ce moment, il semblait qu'elle eut conscience de tout cela, car tout d'un coup, elle se redressa, rejeta en arrière d'un vif mouvement de tête les boucles de cheveux qui encadraient son front et dit à demi-voix « Et je ne suis pas impératrice. » Elle se leva et se promena dans son luxueux appartement, dont les murs de marbre étaient tendus de soie et dont le parquet, également en marbre, était couvert d'un superbe tapis de Perse, de façon qu'une magnificence en cachait une autre. Les supports et le siège de son lit de repos, ce meuble s'appellerait aujourd'hui chaise longue, étaient en ivoire. Les coussins étaient couverts d'une soie épaisse et brodés de fleurs tirées des célèbres fabriques de Damas et d'Antioche. Les pieds de table étaient en bronze et de forme gracieuse et originale. Les tables étaient en bois précieux ou en marbre incrusté de métaux ou de pierres de toutes couleurs. Dans des cassolettes à jour brûlaient sans cesse des parfums suaves qui s'élevaient en petits nuages bleuâtres à travers les ouvertures du couvercle. Sur une autre table se trouvait l'écritoire d'Eudoxia. En guise de papier, des tablettes de cire de différentes grandeurs, en guise de plumes, des poinçons en or. Une autre table portait les petites boîtes et les coffrets qui contenaient les parfums destinés à l'entretien des cassolettes. Eudoxia était habituée à tout ce luxe. Elle en faisait peu de cas et n'en tirait aucune joie. Elle retomba dans ses pensées, et dans le silence qui l'entourait, on n'entendait d'autre bruit que le frôlement de sa robe de soie bleue à larges plis et à bordure brodée d'or, qui traînait moelleusement sur le tapis. De temps en temps, elle prenait en passant une boule aromatique dans les boîtes au parfum et la jetait dans l'une ou l'autre des cassolettes. Le temps s'écoulait. Eudoxia, fatiguée, se laissa tomber sur un siège. « Et je ne suis pas impératrice, » soupira-t-elle. Cette pensée dominait toutes les autres. Une des demoiselles, qui à tour de rôle, se tenait continuellement à portée d'Eudoxia, souleva la courtine de la porte. « Amantius est de retour, » dit-elle à sa maîtresse. « Enfin !» s'écria Eudoxia. Amantius entra et mit un genou en terre. « Vous y avez mis autant de temps que si vous aviez eu beaucoup de peine à vous faire comprendre, » lui dit Eudoxia. « Vous avez deviné juste, ma noble souveraine, » répondit Amantius. Eudoxia s'assit. « Eh bien, » dit-elle en le regardant d'un air inquiet et tendu, « Votre proposition, ô ma très noble souveraine, a été écoutée avec une humble reconnaissance pour votre bienveillant intérêt, mais repoussée. « Amantius !» fit Eudoxia d'une voix menaçante, en ouvrant de grands yeux pleins de colère et de surprise. « Je l'avais pressenti, très noble souveraine. « Mais pourquoi ? Mais c'est tout à fait incompréhensible, réellement repoussé, Amantius ?»« Avec la plus grande humilité et la plus grande décision possible. » « Alors vous avez mal fait ma commission, et je comptais sur vous, et j'avais confiance en vous, et vous vous en acquittez si mal. Sur qui dois-je compter si je ne puis me reposer sur vous, sur votre fidélité ?»« Sur ma fidélité, toujours, » dit Amantius avec un profond respect et en mettant un genou en terre. « Mais vous devez me pardonner si je n'ai pas essayé de briser cette résistance. »« Mais pourquoi non, puisque je le veux, et puisque vous soutenez être un fidèle serviteur ?» Eudoxia parlait avec vivacité et animation. « Racontez-moi votre entrevue, » ajouta-t-elle précipitamment, « afin que j'y puisse comprendre quelque chose. » Amantius commença. « J'attendis assez longtemps avant d'être reçu par la noble Olympia. » Eudoxia l'interrompit aussitôt. « Ne lui avait-on pas dit que vous veniez de ma part ? Vous ne savez peut-être pas, ô ma très noble souveraine, qu'Olympia a érigé un petit hôpital dans sa maison où elle soigne de pauvres malades. Un de ses malheureux hôtes était à l'agonie et elle ne voulait pas l'abandonner. « Ah, c'est juste, » fit Eudoxia d'un ton adouci. « J'eus tout le temps, » reprit Amantius, de considérer dans son abandon et son silence actuel ce palais qu'il y a quelques années, alors qu'Anisius Secondus l'habitait, était le plus brillant de la ville. Car la noble Olympia a pu à peine conserver auprès d'elle les domestiques les plus indispensables, tant ses revenus ont été réduits. Afin de pouvoir donner plus aux pauvres, elle a envoyé presque tous ses gens dans ses terres où leur entretien coûte peu. La cour, le portique, les vestibules, tout était désert. Si le vieux portier qui garde l'entrée ne m'avait prévenu que je pouvais aller jusqu'au bout, jamais je n'aurais osé m'aventurer dans cette solitude. Enfin, j'approchais des chambres habitées et j'entendis avec un certain soulagement le bruit d'un métier, car il m'annonçait le voisinage d'une créature humaine. Je traversai une file de pièces où l'on reconnaissait qu'elles avaient été autrefois somptueusement entretenues. Les murs couverts de cèdre ou de marbre offraient les plus belles incrustations. Mais aujourd'hui, quel contraste! Pas de meubles, pas de tapis, pas de rideaux. À la fin, j'atteignis la chambre où se trouvait le métier auquel travaillait une vieille femme, pendant qu'une jeune fille confectionnait des vêtements avec la même étoffe de laine que sa compagne tissait. Je ne pouvais retenir mon étonnement de voir faire, dans l'antichambre de la noble Olympia, un travail qu'on relègue partout dans le fond du quartier réservé aux domestiques. L'ouvrière s'adressa à sa jeune compagne. « Allez, Théonée, annoncez le chambellan de la très noble Doxia. » Ensuite, elle se tourna vers moi et parla comme une personne qui a besoin d'ouvrir son cœur sur des circonstances extraordinaires. « Oui, voilà où nous sommes réduits. Voilà l'effet de la persécution. Dans ce palais où Anisius Secondus menait une vie princière, où sa fille unique et son héritière vivaient avec son époux Nébridius, comme il convenait à leur nom et à leur rang. Aujourd'hui règne une misère qui vous étonne à bon droit, car le spectacle d'un pareil traitement infligé à une noble et grande dame est quelque chose de nouveau à Constantinople. Tous les jours ce sont de nouvelles tortures, de nouvelles chicanes. D'abord, la fortune est mise sous séquestre. Ensuite, les revenus sont réduits de moitié, puis réduits encore, toujours réduits, de sorte que, comme vous le voyez, l'ameublement de la maison a dû être vendu pour faire de l'argent, car ma noble maîtresse sacrifierait tout plutôt que d'abandonner son petit hôpital. Mais ce n'est pas tout. On lui a enlevé jusqu'à la liberté de sa propre personne, de façon qu'elle ne peut même aller à l'église. Cela n'est-il pas révoltant outre mesure ?
Oui, outre mesure,
s'écria Doxia. Mais celui dont l'audace ne s'arrête pas même devant l'épouse de l'empereur est bien capable de maltraiter toutes les autres femmes. Continuez. Je lui demandais, reprit Amensus, comment la noble Olympia supporte cette persécution.
« Oh, monsieur, répondit la bonne servante, humainement parlant, elle est d'une grande, très grande famille, car Olympia, la reine de Perse, était sœur d'Anisius Secondus. Mais chrétiennement parlant, elle est une fille de Dieu, qui sait porter volontiers sa croix. Par amour pour lui, elle se soumet très patiemment à toutes les épreuves. Elle dit que c'est Dieu qu'elle lui envoie et qu'elle doit par conséquent servir à son salut. Outre l'indigne traitement du consul Eutrope et les instances, plus pénibles encore pour elle, du général Epidius, elle a enduré le blâme de toute sa parenté. Tout le monde lui fait des reproches, tout le monde la presse de se remarier, tout le monde la traite d'absurde, de volontaire, de folle, de vouloir rester une pauvre prisonnière dépouillée et maltraitée plutôt que de devenir l'épouse d'Elpidius.
Dans le fait, cela est étonnant, fit Eudoxia, interrompant le récit de son chambellan. Je ne savais pas que la pression d'une part et la résignation de l'autre allât si loin. Mais il n'en est que plus incompréhensible qu'elle repousse ma proposition. Eh bien, êtes-vous enfin arrivé jusqu'à elle ? Théonée revint avec la réponse de sa maîtresse. Je devais attendre qu'elle pût quitter le lit du mourant ou revenir un autre jour. Je préférais attendre, d'autant plus que les deux ouvrières me dirent qu'un cas de mort était chose presque journalière dans le petit hôpital, parce qu'il reçoit des malades en grand danger, auprès desquels la noble Olympia reste toujours pendant leur agonie. Je restai donc, et j'écoutai avec le plus vif intérêt tout ce que la bonne vieille avait à raconter sur la noble Olympia. Et ce n'était pas peu de chose, car elle savait toute sa vie, étant venue avec la mère d'Olympia dans la maison d'Anisius Secondus. Chaque mot montrait qu'un sentiment tout céleste, une vocation vraiment divine, s'était manifestée et développée de bonheur en Olympia, bien que son père eût mené, jusqu'à sa mort, une vie toute mondaine et païenne, et que sa mère, qu'elle perdit de bonheur, ne se fût fait baptiser qu'en mourant. « Est-il vrai que la sœur de l'exécrable Ruffin ait élevé Olympia ?» demanda Eudoxia.
Cela n'est pas exact, ma très noble souveraine. D'après le dire de ma verbeuse interlocutrice, Anisius Secondus était un homme adroit, intelligent, qui avait les meilleures vues sur son enfant, et qui était en relation avec beaucoup de chrétiens pieux, et aussi avec des évêques. Il demanda à l'un d'eux une dame chrétienne qui fut en état de remplir la place de la mère auprès d'Olympia, qui n'avait alors que 2 ans. L'évêque, touché de cette marque de confiance d'un païen, lui donna sa propre sœur, Théodosia, une sainte créature, auprès de laquelle l'enfant grandit aussi sûrement que sur le sein de sa mère. Pendant que, dans ces mêmes appartements où nous nous trouvons, continua la narratrice, on donnait des fêtes splendides et qu'on recevait toute l'année le monde le plus élégant, Théodosia habitait avec la petite Olympia dans l'arrière-cour, un quartier tranquille où les pauvres, les estropiés, les malades, en un mot toutes les misères humaines avaient le droit de se présenter. C'est ainsi qu'elle inculquait dans cette jeune âme la charité et la commisération par le spectacle de tant de souffrances. La sœur de Ruffin, Sylvia, qui pendant la persécution exercée contre les catholiques par les Ariens, sous l'empereur Valens, avait héroïquement accueilli, entretenu, caché, soigné les persécutés, Sylvia était une amie de Théodosia. C'est ainsi qu'Olympia eut aussi son exemple sous les yeux. Et dire qu'un Ruffin et une Sylvia soient 2 rejetons d'un même tronc, s'écria Eudoxia. Le même arbre a produit des fruits exquis et des fruits sauvages, ô très noble souveraine. Il était pourtant chrétien, répondit-elle. Qui ne l'était pas dans le palais du grand Théodose, fit Amantius. Aussitôt que les empereurs se convertirent au christianisme, le flot du monde inonda les églises, et le monde resta ce qu'il était. Eutrope est chrétien, pourquoi Ruffin ne l'aurait-il pas été? Dit Eudoxia avec amertume. Je voudrais avoir connu Olympia plus tôt, mais du vivant de son époux Nébridius, elle ne venait jamais chez Marsa. Amantius laissa tomber cette dernière remarque et continua sa narration. À la mort d'Anisius Secondus, toute la maison crut, c'est toujours la bonne vieille servante qui parle, que la noble Olympia se vouerait à la virginité, mais son tuteur Procopius, qui avait été préfet de Constantinople et qui jouissait de l'estime générale, la pressa avec tant d'instance et tant d'affection paternelle de se marier avec le noble et excellent Nébridius, qu'elle craignit de manquer à l'obéissance en préférant sa volonté à celle de son tuteur. Elle devint donc l'épouse de Nébridius, mais hélas, au bout d'un an et demi, elle resta veuve. Libre et maîtresse d'elle-même, rien ne l'empêchait plus de se consacrer à l'amour et au service de Jésus-Christ, et à 17 ans, elle dit adieu pour toujours au monde et à ses joies. Les 3 premières années de son veuvage se passèrent dans le repos et dans la paix. Elle n'avait d'autre croix que sa faible santé, qui avait beaucoup à souffrir du genre de vie sévère qu'elle menait en vue de se mortifier, et la forçait souvent à prendre le lit. Mais dans ces 3 dernières années, elle n'a eu que tribulation sur tribulation. La pieuse Théodosia est morte, et Olympia n'est plus maintenant, à vrai dire, qu'une pauvre esclave dans la maison de son père. « Quelle constance ! » s'écria Eudoxia. Enfin, reprit Amantius, arriva une servante qui me conduisit auprès d'Olympia. Elle me reçut dans une chambre très simplement meublée. « Quelle figure a-t-elle ? » demanda Eudoxia avec un vif intérêt. Il ne m'appartenait pas de lever les yeux sur la noble dame pour étudier son visage, répondit Amantius froidement. Elle portait une robe de cette même étoffe de laine grossière et sombre que j'avais vue sur le métier et que portent ses servantes elles-mêmes. D'un ton et d'un air aimable, elle me demanda l'objet de ma visite. Je lui exposai la chose, tout à fait comme vous me l'avez dite, ô ma très noble souveraine. Il faut, lui dis-je, que toutes les personnes qui gémissent sous l'oppression inique du consul Eutrope se réunissent pour crier justice aux oreilles de César Auguste. Plus ce cri sera puissant et éclatant, plus il assurera la chute du mauvais favori. La noble Olympia m'écouta tranquillement jusqu'au bout. S'il ne s'agissait pas de moi, répondit-elle avec douceur, si je pouvais espérer secourir une créature opprimée, je n'hésiterais pas à m'adresser à la justice de l'empereur. Mais cela ne m'est réellement pas possible pour ma pauvre personne. Ne croyez-vous pas, lui dis-je, qu'il soit permis de repousser l'injustice quand nous le pouvons, lorsqu'elle nous atteint nous-mêmes. Savons-nous, me répondit-elle, si ce que nous considérons comme une injustice à notre égard n'est pas, dans la main de Dieu, une justice suprême et cachée à nos faibles yeux. Fort bien. Il ne coûte point à votre générosité de vous perdre de vue vous-même et d'oublier votre sort. mais plaignez-vous du traitement inique qui vous est fait comme s'il s'agissait d'une personne étrangère. Ce sont là des subtilités, répondit-elle avec calme. J'ai l'habitude d'agir simplement.
Je ne veux pas vous laisser ignorer, repris-je, que notre très noble souveraine attache un grand prix à votre concours.
L'empereur ne connaît pas dans toute sa rigueur les mauvais traitements dont vous souffrez, et personne ne peut l'éclairer à cet égard que vous-même, parce que Trope traiterait tout autre témoignage de mensonge et de calomnie. S'il apprend ce que Trope ose entreprendre contre une noble et digne dame sans protection et sans défense, son cœur simple et droit se soulèvera contre le favori, et sa chute est assurée.
Et cette chute, à quoi aboutira-t-elle?
Son sort sera entre les mains de l'empereur, qui se montrera généreux comme toujours.
Mais Eutrope a des ennemis, reprit-elle. Il a contre lui toute la ville. Le peuple lui est hostile. Les uns le haïssent, les autres ont pour lui le plus profond mépris.
Croyez-vous que cette hostilité générale n'aboutirait pas à un autre résultat, et que le flot de la colère publique ne l'emporterait pas sur la décision généreuse de l'empereur?
Comme j'ai moi-même cette conviction, je restais un instant muet. Elle reprit avec douceur et résolution.
Vous comprendrez que je n'y puis avoir aucune part.
Et c'est là le second motif pour lequel je ne puis entrer dans les vues de la très noble Doxia.
Vous êtes donc résolu, lui dis-je, à rester dans votre captivité qui va jusqu'à vous interdire la visite des églises aussi longtemps qu'il plaira à Eutrope.
J'espérais que cet argument soulèverait son indignation.
Oh non, répondit-elle en souriant.
Mais bien aussi longtemps qu'il plaira à Dieu.
Ce fut notre dernier mot sur ce sujet. Elle me chargea de déposer à vos pieds ses remerciements pour votre bienveillant intérêt et de vous prier d'amener Elpidius à d'autres pensées.
« Ce n'est pas pour moi-même, » ajouta-t-elle avec le ton d'une personne qui ne se plaint jamais, « mais c'est dans son propre intérêt. »
Sur ce, elle me quitta.
« Il me semble, » fit Eudoxie avec humeur, « que vous aviez autre chose à dire à Mancius, que vous pouviez insister plus fortement. Si c'est bien là tout votre entretien, vous n'avez pas été réellement fort éloquent. »«
Je le reconnais volontiers, ô ma souveraine, » dit Mancius, en mettant encore une fois un genou en terre.
« Mais que dire à une femme qui, dans les choses les plus simples, s'exprimait avec une décision tranchante, et qui, en outre, malgré son affabilité, m'inspirait un tel respect que je n'osais dire un mot de plus qu'elle ne me permettait.
« C'est bien, Amantius, répondit Eudoxia. Si vous n'êtes pas toujours très habile, vous êtes au moins fidèle et vous savez vous taire.
Il est entendu que vous n'y dites pas un seul mot de tout ceci. Du reste, j'arriverai au but sans Olympia, et cela ne m'en sera que plus agréable. »
« Oh, ma souveraine, » dit Amantius, toujours agenouillé devant elle, « vous n'êtes pas contente de moi, et vous avez raison, punissez-moi.
Vous êtes un fou de prendre mes paroles aussi sérieusement.
Que pouviez-vous contre une femme fanatique de piété?
Si vous voulez bien me permettre de faire un pèlerinage en Terre Sainte, je le ferai dans un esprit de pénitence et de componction, et je reviendrai peut-être meilleur.
Ou bien vous ne reviendrez pas du tout,
et vous resterez à Jérusalem auprès des moines du Mont des Oliviers. » Ou même à Bethléem, dans le monastère du pieux et savant Jérôme, pour étudier avec lui les livres sacrés.
Voilà ce qui arriverait, fit Eudoxia d'un ton amical.
Non, Amantius, cette permission, je ne vous la donnerai jamais. Vous le savez, je vous l'ai déjà refusée une fois.
Ôtez-vous donc cette idée de la tête. Je ne sais pas si vous pouviez avoir besoin de vous amender devant Dieu.
Pour moi, il me suffit que vous restiez ce que vous êtes.
Très noble, Eudoxia,
fit une jeune voix derrière le rideau de la porte.
« Entrez, Gunilde, qu'avez-vous à me dire ?» répondit Eudoxia.
Une jolie jeune fille, dont la démarche annonçait un caractère plein de fierté, entra et se mit à parler avec un accent étranger.
« Un courrier envoyé par mon père vient demander quand il vous plaira de recevoir le général. »«
Votre père est-il en ville ?» demanda Eudoxia étonnée.
« Je ne sais pas, madame, » dit Gunilde.
« Allez, Amantius, vous en informez auprès du courrier. Si Gainas est ici, qu'il vienne tout de suite. »
Car une cause très importante a pu seule le déterminer à laisser son armée en Thessalie.
Amantius obéit.
« Venez ici, Gunhild, » dit Eudoxia d'un ton affectueux. Elle fit asseoir la jeune fille à ses pieds sur un coussin.
« Dites-moi, comment allons-nous ?
Je crois que tout va fort bien.
Êtes-vous décidé à vous faire instruire ?
Pour cela, pas encore, madame.
Et vous osez me dire que tout va bien ? Tandis que vous êtes désobéissante et incrédule, » fit Eudoxia d'un air animé.
« Quand je dis bien, je veux dire par là que rien n'est changé en moi, »
répondit Gunilt avec beaucoup de tranquillité.
« Cœur ingrat ? » fit Eudoxia avec agitation.
«
Non, je ne suis pas ingrate, madame. Mais je ne puis parler autrement que je ne pense. C'est pour cela que je voudrais vous prier de me renvoyer à mon père.
La place d'une jeune fille de 15 ans n'est pas dans les camps, Gunhild. Comme votre père est obligé, pour le service de l'empereur, de rester presque toujours à l'armée,
je vous ai prise auprès de moi, et vous vivez avec mes dames d'honneur. Que vous manque-t-il ici ?
Mes compatriotes et la liberté,
s'écria Gunhild.
Petite barbare,
fit Eudoxia en riant.
Oh, laissez-moi partir, dit Gunhild d'un ton suppliant. Je n'irai pas au camp. Non, laissez-moi revoir mon pays natal, les bords du Danube, avec ses beaux ombrages.
Des pas d'homme approchaient. Amansus ouvrit le rideau.
Madame, le courrier est lui-même ici.
Un homme de haute taille, sous l'habit d'un simple soldat, parut à la porte.
Mon père ? S'écria Gunhild.
La jeune fille fit un bond vers lui, mais le guerrier l'éloigna d'un geste.
Allez auprès de mes enfants, Gunhild,
dit aussitôt Eudoxia, en lui montrant une porte qui faisait face à l'entrée principale.
À peine Gunhild était-elle sortie, qu'Eudoxia fit signe au général de l'armée des Goths de s'approcher.
Il faut, noble Gainas,
lui dit-elle d'une voix étreinte par l'émotion, qu'une grande nouvelle heureuse ou malheureuse vous amène ici.
Léo est mort, madame, répondit Gainas d'une voix calme.
Ah,
fit Eudoxia avec un accent de joie difficile à contenir. Elle se laissa retomber sur ses coussins comme soulagée d'un énorme poids.
Maintenant, ajouta-t-elle, il faut agir. L'empereur le sait-il ?
Gainas secoua les épaules et garda le silence.
« Comment est mort ce misérable ? »
demanda-t-elle précipitamment.
« D'une peur blanche. »
Il passa avec sa division de l'autre côté de l'Hellespont et attendit, sans résolution et plein d'effroi, ce que Tribigild allait faire, s'il se tournerait du côté de l'Ionie ou de la Syrie. Dans les angoisses de la faiblesse et l'inquiétude de l'attente, il a trouvé la mort. L'Ionie deviendra, sans aucun doute, la proie facile de Tribigild.
« Vous la défendrez, noble Gainas. Vous protégerez Constantinople et le trône impérial, »
répondit Eudoxia d'un ton caressant.
« L'empereur, oui, et vous, madame, avec vos enfants, oui, mais un trône sur les degrés duquel un eutrope joue au souverain, non, »
répondit le fier Goth. « Depuis que l'Empire d'Orient est délivré de l'oppression de Ruffin, j'ai dû, pendant 4 ans, voir passer tous les honneurs, toutes les dignités, tous les trésors de l'État aux mains du misérable successeur de Ruffin, » tandis que moi, piètrement traité, chichement récompensé, je suis resté ce que j'étais, général des Goths. Tant que Trope restera au gouvernail, je laisserai les choses aller comme elles voudront. Que Tribigild prenne l'Ionie, qu'il prenne même Constantinople, alors je vous conduirai, vous et l'empereur, au milieu de mon armée en Thessalie. Là, vous serez en sûreté. Eutrope veillera au salut de l'Empire et repoussera l'ennemi. Mais si je dois marcher contre Tribigild, si je dois commander en chef, il faut que Trope tombe.
Il tombera, dit Eudoxia avec résolution. C'est assez d'ignominie.